Voilà, ce matin, on poursuit avec notre thématique que nous avons débuté la semaine dernière, qui s'appelle « Suis-moi », où nous allons voir dans toute cette thématique, semaine après semaine, ce que signifie réellement suivre Jésus et être son disciple. On a vu la semaine dernière que nous retrouvons 14 fois les expressions « Suis-moi » ou « Suivez-moi » dans les évangiles, que cet appel signifie à laisser Jésus prendre les commandes de nos vies. Jésus est notre seule zone de confort, Jésus est notre seule sécurité, Jésus est notre seule priorité. On avait également vu que le suivre, c'est être prêt à vivre et endurer ce qu'il a vécu, le rejet, la souffrance, etc. Et ce que nous avons finalement vu, c'est que le suivre Jésus nous permet vraiment de réaliser, de nous réaliser et de vivre ce pourquoi nous avons été créés. Et après avoir posé ces fondations, nous allons parler de la première mission des disciples qui est de faire des disciples. Mais la mission première des disciples est de faire des disciples. Le premier point ce matin, c'est que suivre Jésus, c'est faire des disciples. On va commencer la lecture dans Matthieu 4, verset 18 à 1. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu nous relate les débuts officiels du ministère et de la mission de Jésus. Et l'une des premières choses que Jésus fait, c'est qu'il invite des autres à venir et à le suivre. Il invite des personnes à le rencontrer et à marcher avec lui. L'invitation à Pierre et André de Matthieu, l'invitation à Pierre et André, pardon, est claire. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Qui veut dire pêcher des hommes? Ça signifie simplement aller vers les autres et les aider à rencontrer Jésus. Aller vers les autres et les aider à rencontrer Jésus. Le but de Dieu est que tous les hommes puissent être sauvés et reviennent à lui afin que Dieu soit glorifié. Le but de Dieu, c'est que tous les hommes puissent être réconciliés avec lui. Avec tous les hommes sont pécheurs par nature. Vous m'entendez souvent dire, mais parce que c'est le message de l'Évangile. Tous les hommes par nature sont pécheurs, c'est-à-dire que chacun d'entre nous avons désobéi à Dieu. Nous avons mené notre petite vie par nous-mêmes en déterminant ce qui était bon ou mauvais pour nous. Et tout ça, sans nous soucier de Dieu et de sa volonté pour nos vies. Les conséquences de ce mode de vie sont évidentes. On est égoïste, on cherche toujours à tirer la couverture sur nous. Et ce genre de mode de vie, il suffit simplement d'allumer la télévision ou de regarder Internet pour voir les conséquences de ce cœur de l'homme. Les conséquences du cœur de l'homme livré à lui-même. Guerre, magouille, etc., etc. Dieu étant parfaitement juste et parfait, il ne peut pas laisser impuni toutes ses transgressions. L'homme étant corrompu au plus profond de lui-même, il est impossible pour lui, par ses propres forces, de revenir à Dieu. Mais le cœur et le but de Dieu, ce n'est pas que les hommes qu'il a créés soient condamnés, mais qu'ils soient sauvés. Voilà pourquoi il s'est fait homme, il s'est incarné en la personne de Jésus. Et il a subi la propre condamnation que nous méritons tous, afin que tous ceux qui placent leur foi, tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, soient sauvés. L'Évangile, c'est quoi? C'est l'histoire d'un homme qui passe au tribunal parce qu'il a commis des vols et que le juge lui dit, monsieur, vous êtes coupable pour les vols que vous avez commis et vous êtes condamné à payer 5 000 euros. Et alors que le juge donne ses verdicts, il enlève sa robe de juge, il vient se placer à côté de l'homme qui est condamné, il revêt la robe d'avocat et lui dit, moi je paye pour cet homme. C'est l'histoire de l'Évangile. Il paye la dette pour cet homme en prenant cette robe d'avocat. La dette est payée pour quiconque place sa foi, pour quiconque place sa confiance en Jésus et décide de le suivre. C'est le message de l'Évangile. Mais bien plus que de payer notre dette, l'Évangile transforme notre vie depuis l'intérieur. L'évangile transforme notre vie à l'intérieur. Dans une citation de David Platt, c'est un pasteur américain qui a écrit le livre Suis-moi, un appel à mourir, un appel à vivre, et qui dit la chose suivante: nous ne suivons pas simplement un sauveur qui pardonne notre péché, nous suivons un sauveur qui nous purifie du péché. Il ne passe pas simplement la dette, il fait une œuvre de transformation et de purification à l'intérieur de nous. Nous en avons parlé la semaine dernière, mais lorsque Jésus appelle Pierre et André, il leur dit: suivez-moi et je serai. Suivez-moi et je serai. Dieu opère une transformation intérieure dans nos vies. Ce n'est pas nous qui changeons des choses dans nos vies pour que Dieu nous choisisse, mais c'est Dieu qui nous choisit pour changer des choses dans nous. Ce n'est pas nous qui essayons de changer par nos propres forces pour que Dieu dise: bon ben, je t'accepte, mais c'est Dieu qui nous accepte pour faire une œuvre de transformation au plus profond de nous. Amen. On croit ce matin, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et son but est que nous partagions autour de nous ce qu'il fait, ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire dans nos vies au quotidien. C'est le but de Dieu que nous partagions, que nous racontions que Dieu, l'œuvre qu'il fait au plus profond de nous. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus donne son grand ordre de mission à tous ses disciples. Le passage que pour la plupart vous connaissez, Matthieu 28, 19 à 20: allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu désire que chaque personne sur cette terre puisse entendre qu'il les aime, qu'il a donné sa vie pour eux, que ces derniers puissent décider de le suivre, afin que Dieu puisse transformer leurs pensées, transformer leurs désirs, transformer leur volonté, transformer leurs relations, et finalement transformer même leur raison d'être, leur raison de vivre. Il est intéressant de voir dans ce verset que Dieu nous demande de faire de toutes les nations des disciples. Et le mot traduit par nation, c'est le mot grec ethnos, que nous connaissons en français sous le terme d'ethnie. Je ne sais pas comment vous m'avez apprécié la louange ce matin, mais c'est tellement beau de voir la diversité dans les louanges qu'il peut y avoir au travers des ethnies différentes que nous représentons. C'est vrai. Il y a toutes sortes de cultures à l'ethnie, Michel le dit assez souvent, il y a plus de 60 nationalités à l'ethnie qui reflètent chacun dans leur culture et dans leur façon d'être la gloire de Jésus. Amen. De faire de toutes les nations des disciples. Alors, faire toutes les nations des disciples, parce que ça veut dire que dès demain matin, nous allons tous à une time prendre un billet et puis on passe par tout le monde pour aller prêcher l'évangile. Est-ce que ça veut dire de tout quitter, quitter la France demain matin? Certains vont recevoir un appel particulier de partir. Mais pour la plupart d'entre nous, Dieu nous appelle à être des témoins là où il nous a placés, dans notre contexte. Au 1er janvier 2014, l'immigration en France. Alors, quand je parle d'immigration, je vais parler de personnes qui sont nées dans un autre pays que celui où elles résident. L'immigration en France représente 7,7 millions de personnes, soit 11,6% de la population française. À Strasbourg, en 2013, nous comptions 40 824 personnes d'origine étrangère. Beaucoup d'ethnies sont sur notre territoire, dans nos villes, dans nos quartiers. Notre défi est de pouvoir leur partager la bonne nouvelle de Jésus. L'appel missionnaire de l'Église locale et des disciples de Jésus commence ici, au coin de la rue. L'appel missionnaire de l'Église commence ici, au coin de la rue. Ça peut se manifester, par exemple, avec l'équipe Lyon d'Espoir, qui, au sein de l'Église, chaque vendredi une fois par mois, va au contact des filles de rue des prostituées pour leur annoncer que Jésus a un plan pour leur vie. Ça commence au coin de la rue lorsque vous allez avec toutes les équipes d'enjeux qui sont là chaque intervention dans notre quartier de la Mélo, avec l'association Angers, Stéphane et toute l'équipe qui sont là pour apporter, pour communiquer quelque chose de la part de Dieu au sein de l'association du quartier, pour bénir l'endroit où Dieu nous a placés. C'est aussi bénir les enfants du quartier du Mélo avec toutes les interventions qui sont faites, avec les chorales d'enfants, etc. Et les jeux qui sont organisés pour les enfants d'une personne de l'intérêt. C'est aussi témoigner au boulanger du coin quand vous allez acheter vos pains samedi matin. La mission commence ici, dans mon quartier. La mission commence ici, dans ma ville. L'époque dira la chose suivante, en devenant disciple du Christ, nous lui avons signé un chèque en blanc avec notre vie. Ce qui signifie qu'il a le droit de nous dépenser comme il le souhaite pour répandre l'évangile dans le monde. Qu'est-ce qu'il a fait avec ces dieux s'il a un chèque en blanc sur sa vie? C'est difficile de lever la main. C'est difficile. Et pourtant, c'est ça de répondre à l'appel de Christ. Le Seigneur, ma vie, elle t'appartient. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu as décidé. On a besoin de réfléchir à ces choses. Les gens ont besoin de vous voir et d'entendre le message de l'Évangile. Paul dit dans sa lettre aux Romains, Romains 10, 14 à 15, « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ?» Paul poursuivra verset 17 en expliquant que la foi, la confiance en Dieu, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi se crée lorsque la parole est annoncée et proclamée. La foi naît dans le cœur lorsque la parole est annoncée et lorsque la parole est proclamée. Et maintenant, on va voir qu'être disciple, après avoir vu qu'être disciple, c'est faire des disciples, nous allons voir comment faire des disciples. Et c'est notre deuxième point qui est à suivre Jésus, c'est répondre aux besoins des gens. Matthieu 4, 21 à 23. On poursuit. Il y en a plus loin, il y a deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, et qui réparait leur filet. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. La meilleure façon de faire des disciples, c'est suivre le modèle que Jésus nous a laissé. Et on voit dans ce passage que Jésus était là où les gens étaient. Il va dans les synagogues. Il va là où sont les gens. Il allait à la rencontre des personnes. Jésus rejoignait les gens dans leur réalité. Il rejoignait les gens dans leurs besoins. Il répondait à leur vie spirituelle en leur communiquant, en leur annonçant l'Évangile, et il répondait à leurs besoins physiques et émotionnels en les guérissant. C'est la guérison, ce n'est pas que de la maladie physique. Il y a plein de gens qui sont liés par des choses émotionnelles. Et tous ceux qui font de la relation de la vie pourraient vous dire combien de personnes sont liées par des problèmes qui sont liés à l'émotionnel, à des peurs, à des fuites, etc. Jésus guérissait les besoins physiques et émotionnels des gens. Amen. Une des expressions que nous trouvons à plusieurs reprises dans la Bible concernant l'attitude de Jésus face aux gens, c'est l'expression ému de compassion. Jésus est ému de compassion. Cette expression vient du grec plagidzomai. Qui signifie être remué à l'intérieur. C'est un mouvement de notre être qui nous pousse à l'action. Il y a quelque chose qui prend place à l'intérieur de nous et qui dit que c'est obligé d'agir, c'est obligé d'interagir. C'est avoir des motifs dans notre cœur qui nous poussent à prendre des mesures concrètes. Dans Matthieu 9, 36, Jésus a été remué de l'intérieur face à des gens qu'il voyait comme perdus et sans berger. Et il a agi afin qu'il retrouve la maison du Père. Dans Matthieu 14, 14, Jésus était remué de l'intérieur face à ceux qui étaient infirmes, ceux qui le poussaient à les guérir. Dans Matthieu 15, 32, Jésus était remué de l'intérieur en voyant la foule qui n'avait pas mangé depuis trois jours, ce qui l'a poussé à multiplier le pain et les poissons. Dans Matthieu 20, 34, il a été remué de l'intérieur en voyant les aveugles le long du chemin, et il leur a rendu la vue. Dans Marc 9, 22, Jésus était remué de l'intérieur en voyant des gens liés par des puissances démoniaques, ce qui les poussait à les libérer. La question est, est-ce que je suis remué de l'intérieur? Est-ce que je suis encore touché par ce qui se passe autour de moi? Est-ce que je suis touché au plus profond de moi-même lorsque je vois des gens qui sont perdus autour de moi? Lorsque je vois des gens qui sont prisonniers de souffrances physiques, de souffrances émotionnelles, est-ce que je suis remuer à l'intérieur de ce jour-là des gens tourmentés par les ténèbres. Vous savez, c'est facile à dire qu'on aime les gens de manière théorique. C'est tout autre chose de les aimer dans la vraie vie. On fait toujours des films comme ça, mais moi j'aime Jésus, j'ai partout presque la bonne nouvelle, et pourtant on détourne le regard du gars qui est juste assis à côté de nous. On aime bien faire des films et puis on est le héros en fait. Mais dans la réalité, on n'est pas là. Être venu de l'intérieur pour des gens qui ne se mesurent que dans la réalité, pas dans les belles paroles. Que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon voisinage ou que ce soit dans mon église, j'ai besoin d'être venu de l'intérieur et agir concrètement pour les besoins physiques, émotionnels, spirituels qui sont là autour de moi. Soyons là où les gens sont. Et intéressons-nous à ce que les gens peuvent vivre. C'est un défi pour l'Église de notre taille de s'intéresser à ce que les autres peuvent vivre. Parce que je suis sûr que peut-être il y a des gens, ça fait plusieurs années que vous êtes là, et je suis sûr qu'il y a des gens de ce côté-là qui ne connaissent pas les gens de ce côté-là. Mais l'Évangile nous invite à être remués de l'intérieur pour les besoins qui nous entourent. De laquelle va dire, de laquelle ferme le leadership, c'est-à-dire, cela peut sembler étrange, mais c'est un fait réel. Les gens ne se soucient pas de ce que vous savez jusqu'à ce qu'ils sachent à quel point vous vous souciez d'eux. Les gens ne se soucient pas de tout votre savoir jusqu'au moment où ils voient l'importance que vous leur attachez. Suivre Jésus, troisième point ce matin, c'est inviter les gens à le suivre. Matthieu 4, 23, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume. Et Luc 9, 23, comme on l'a vu la semaine dernière, puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'est-ce que c'est que proclamer? Qu'est-ce que ça veut dire annoncer ou enseigner la bonne nouvelle? La première chose, c'est que l'Évangile ne s'impose pas. L'Évangile se propose et s'expose. Mais l'Évangile ne s'impose pas. Nous ne pouvons pas imposer Jésus aux gens qui nous entourent. Cette année, nous avons vu le passage de Luc 9, 23 où Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi ». Nous voyons clairement dans cette expression que c'est une invitation et non une imposition. Jésus va proposer aux gens de leur suivre et de leur exposer, c'est-à-dire leur expliquer et leur détailler ce qu'est être un disciple. Je dois le faire pour le bien allemand qui était responsable d'une école biblique pendant le régime nazi et qui a fini dans les camps. Comment ce passage en disant ne peut forcer personne. On ne peut même attendre cela de personne. Au contraire, nous disons si quelqu'un veut me suivre, au dépit de toutes les autres propositions qui lui seront faites, tout dépend encore une fois de la décision. Si quelqu'un, si l'invitation, parmi toutes les choses que la société peut nous proposer, parmi toutes les attractions qui peuvent être autour de nous, que les gens disent, je veux quand même suivre Jésus. Et ça, ça dépend d'une décision. Combien de chrétiens veulent faire adhérer les gens à une bonne morale? Qui doit faire ci? Qui doit pas faire cela? Et puis, ce n'est pas comme ça que tu aurais dû le dire. Les gens ne peuvent pas suivre sa voie s'ils n'expérimentent pas l'œuvre de la croix. Les gens ne peuvent pas suivre sa voie sans expérimenter au plus profond d'eux l'œuvre de la croix. C'est la puissance de la croix seule qui peut nous transformer. Votre but n'est pas que les gens vivent une attitude ou des principes chrétiens, si bon soit-il, mais votre but est de les aider par votre témoignage à rencontrer Jésus, à placer leur confiance en lui et à les laisser œuvrer en eux. Amen. Ne prenons pas le problème à l'envers. Nous devons accepter les gens comme ils sont, sans réserve. Accepter ce qu'ils sont ne veut pas dire approuver ce qu'ils font. Mais l'acceptation doit être pleine et entière, quoi que les gens puissent être, quoi que les gens puissent dire ou quoi que les gens puissent faire. Vous savez, beaucoup de mes anciens collègues sont venus écouter l'Évangile. Certains d'entre eux ont placé leur foi en Jésus. Parce que nous étions d'abord amis. Et qu'ils acceptent ou non Jésus, ça n'aurait pas remis en cause notre amitié. Ça ne remet pas en cause notre amitié. L'un d'eux m'a dit une fois, avant de te connaître, croyais comme tout le monde dit que c'était une secte. Vous avez vu la notion? Avant d'avoir une relation avec toi, je croyais que. Et puis la confiance est venue, l'amitié est venue, l'amitié pour l'amitié, pas l'amitié pour l'évangélisation, l'amitié pour l'amitié. Et puis ils sont venus à l'évangile, ils ont écouté ce qui s'est passé. Et il m'a dit quelque chose comme ça plus tard. Si je devais croire en quelque chose, c'est toi que je viendrai. Donc il n'a pas rencontré Jésus personnellement. Mais il a dit si je devais croire en quelque chose, c'est toi que je viendrai. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation, une connexion qui se fait d'abord. Nous avons besoin d'aimer les gens et de nous intéresser à eux, afin de gagner le droit de leur partager quelque chose. Souvent, on veut s'imposer sur les gens et leur dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais tu n'as aucun droit de dire quelque chose à quelqu'un si tu n'as pas gagné ce droit en vivant une relation avec lui. Qui on peut être pour se donner le droit de parler à quelqu'un? Pour gagner ce droit, on a besoin de gagner l'amitié, de tisser des liens, des relations, peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'ils font. Je ne peux pas gagner les gens si je ne m'intéresse pas à eux. Je ne peux pas leur faire la morale sans m'intéresser à ce qu'ils disent. Vous savez, j'ai des collègues qui me partageaient un peu ce qu'ils vivaient au quotidien. Vous savez, quand on est au lycée, il y a des moments où on est dans une salle où il y a tout le monde, mais ça, ce n'est pas le bon moment. Là, c'est le moment où ça raconte beaucoup de bêtises. Mais on a aussi des moments privilégiés quand on est dans une patrouille, quand on est dans un véhicule de police, parce que bien souvent, on est deux dans la voiture pendant 8 heures. Vous savez, le 8 heures, c'est là où on ne parle pas. Mais bien souvent, il y a des connexions qui se font et on peut commencer un petit peu à discuter. Et j'ai encore à l'esprit une collègue qui me racontait un petit peu ce qu'elle vivait au quotidien, ce qu'elle vivait dans le domaine de sa vie qui était difficile. Et cela m'a permis de pouvoir lui partager simplement quelques conseils de ce que Jésus aurait pu lui dire dans la parole de Dieu par rapport à sa situation de vie. Et je me souviens toujours cette image, elle était au volant, moi j'étais le plus ancien, j'étais le chef, alors je me faisais conduire. Elle avait des lunettes de soleil et je lui parlais de l'évangile, et sous les lunettes de soleil, il y avait des larmes qui coulaient. Pourquoi? Simplement parce que je m'intéressais à elle. J'avais gagné le amitié et j'avais gagné le droit de donner des conseils. Et de pouvoir me partager peut-être ce que Jésus aurait fait à sa place dans cette situation. Et c'est là que vous m'avez touché son cœur. Il nous faut juste être là. Juste là pour communiquer une parole à propos. Au moment opportun, dans un besoin particulier. Et laisser à Dieu le soin d'agir. Proverbe 15:23 nous dira qu'une parole dite à propos est agréable. Une parole dite à propos produit quelque chose dans le cœur des gens qui nous entourent. Je vous l'ai dit la semaine dernière, en adolescence, mes parents ne m'ont pas imposé les choses de l'Église. Ils m'ont laissé libre. Ils m'ont aimé et ils ont prié. Vous savez, c'est quand j'ai été dans les galères, lorsque j'ai été dans les misères, que ma mère a été là au bon moment, avec une parole à propos, pour m'inviter à passer de nouveau ma confiance en Jésus. Mais après tout, elle m'a dit, tu sais que Jésus est capable de faire quelque chose pour toi dans cette situation. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à Dieu, si tu opères dans cette situation, je te promets que de ma vie que je te sers. C'est ce genre d'engagement qu'on prend avec Dieu, où le miracle prend place. Alors je ne vous dis pas qu'il faut mettre Dieu au défi comme ça, ce n'est pas une doctrine. Mais dans mon histoire de vie, c'est comme ça que ça s'est passé. Laissez à Dieu agir. Vous soyez juste là pour communiquer cette parole à propos. Ne cherchez pas à contrôler les gens, mais inspirez-les par votre vie. Ne cherchez pas à contrôler les gens, mais inspirez-les par votre vie, par ce qui se passe. N'hésitez pas à dire encore les personnes que Dieu vous a confiées doivent voir, entendre et sentir la vie de Christ en vous. Les gens doivent voir, entendre, sentir la vie de Christ en vous. C'est un peu ça aussi de la pierre de 12 qui nous dit « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que l'ami vous calomnie comme si vous faisiez du mal. » C'est vrai qu'on peut se moquer de nous parfois, et puis de nous faire passer pour des fous. Il dit « Plus loin qu'il remarque votre belle manière d'agir et rende gloire à Dieu au jour où il interviendra. » Par votre attitude, par ce que vous transpirez, par ce que vous êtes, même s'il se moque à un moment donné, une semence qui est plantée, le moment où Dieu interviendra dans leur cœur et se souviendra de ces choses et glorifiera Dieu. Amen. Ce matin, ne désespérez pas. Ça fait des années que vous battez, vous parlez, vous partagez votre cœur avec quelqu'un qui semble Dieu. Vous ne savez pas ce qui est possible de se produire au moment où Jésus va aller le toucher. Et vous ne savez pas le fruit de cette semence que vous avez plantée peut-être il y a 15, peut-être il y a 20 ans dans la vie de cette personne qui, tout d'un coup, va pouvoir éclore et porter du fruit. Nous sommes appelés à faire des disciples en reflétant notre modèle, Jésus-Christ. Paul dira aux chrétiens de Corinthe, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et il dira à ce Philippe, dans Philippiens 4:9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ce que Paul est en train de dire en substance, tu veux expérimenter la paix de Dieu dans ta vie de disciple, reflète Jésus en t'intéressant à Dieu. Réponds à leurs besoins concrètement. Raconte ce que Jésus a fait dans ta vie. Aime-les sans condition et invite-les à expérimenter Jésus. Prie pour eux et laisse-les agir. C'est tout. En vivant cela, nous vivrons le grand ordre de mission de faire de toutes les nations des disciples. Et je vais inviter l'équipe de l'ange à venir un peu plus à point de ce chant, je sais qui je suis. David Platt dira, chaque disciple de Jésus a été appelé, aimé, créé, sauvé pour faire des disciples de Jésus qui font des disciples de Jésus qui font des disciples de Jésus. Jusqu'à ce que toutes les ethnies de la planète célèbrent la grâce et la gloire de Dieu. Faire de toutes les nations des disciples ne veut pas dire que le monde entier va se convertir, mais ça veut dire qu'en partageant la bonne nouvelle de Jésus, des personnes de tous les peuples et de toutes les langues deviendront des disciples de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut prendre ce chant tous ensemble? Je sais qui je suis. Il y avait une parole dans le monde qui m'a parlé un petit peu par rapport à ça dans le chant. Et ça puisse vraiment être une invitation ce matin. Avant de prendre ce chant, on va prendre un temps de prière. Et j'aimerais vous inviter ce matin à relever le défi. Peut-être que vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Vous dites que c'est trop difficile. Et que cette parole puisse être un encouragement pour plusieurs ce matin. Soyez au contact des gens. Cherchez-les, intéressez-vous à ceux qui vous entourent. Et laissez Dieu agir. Et je crois encore que le Dieu du miracle est capable de toucher les cœurs au 21e siècle. Amen. Il y a des gens qui croient que Jésus est plus sauvé des gens encore en 2017. Vous savez, avec Michel, on a le privilège de voir des gens semaine après semaine qui viennent au bureau. Comme cette semaine, on a une personne qui est venue, elle n'a jamais mis les pieds dans une église, et elle a réussi à frapper à la porte de l'église. Parce que des gens se mettent en elle, plus tôt. Et là, elle arrive sur Strasbourg et elle frappe à la porte de l'église alors qu'elle ne connaît même pas. Aimons, aimons, partageons, invitons et laissons à Dieu agir. Amen. Peut-être que ce matin, tous ensemble, Père éternel, je te prie et te remercie pour ta parole ce matin. Merci Jésus parce que nous croyons, Seigneur, à cet ordre de mission que tu nous as confié de faire des disciples. Seigneur, notre cœur ce matin, ce n'est pas d'imposer une bonne morale ou d'imposer un bon style de vie aux gens, mais c'est simplement de permettre de te rencontrer. Et je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, en tant qu'église locale ici, Strasbourg, Père, nous voulons remplir le mandat que tu nous as confié. Aide-nous à aimer et à accepter, Seigneur, sans condition ce qui nous entoure. Aide-nous, Seigneur, à avoir un regard favorable. Seigneur, je te prie pour que nous soyons plagués de zénal ce matin, émus de compassion, remués à l'intérieur pour notre génération. Je te prie, Seigneur, pour un mouvement d'esprit à l'intérieur de nous, Seigneur, qui nous pousse à agir. Je te prie, Seigneur, ce matin encore pour que des fardeaux soient déposés sur nos cœurs, ton fardeau pour notre génération, pour les gens qui nous entourent, pour les membres de nos familles, pour nos collègues de travail, pour tous ceux, Seigneur, qui gravitent dans notre sphère d'influence. Viens nous saisir ce matin, Seigneur, et aide-nous de nous l'audace de partager, Seigneur, ce que tu as fait dans nos vies, et d'être là comme des intercesseurs qui prions afin que ton esprit vienne nous saisir, nous contemplons. restaurer, Seigneur, et viens les remplir de ton amour et de ta grâce. Parce que, Seigneur, ton but, ce n'est pas que les méchants soient condamnés, mais qu'ils soient sauvés pour toi. Alors, je te prie, Seigneur, pour que nous soyons une église missionnelle, une église qui répond à ce mandat, alors qu'il y a tant de nationalités dans notre ville de Strasbourg. Je te prie de nous saisir ce matin et que nous soyons remplis de toi pour communiquer ton amour, pour communiquer ta grâce à ceux qui nous entourent. Merci, Jésus, pour ta présence. À toi, toute la gloire et la louange dans ce Dieu Père. Amen. On te remercie pour ce que tu vas faire en avance parce que nous croyons que tu n'en as pas fini avec les pieds. Seigneur, nous voulons remplir notre mandat. Nous croyons que l'Église, c'est d'abord des gens. Nous croyons que l'Église, c'est d'abord des personnes. Aide-nous, Seigneur, à être cet hôpital qui aide les gens à guérir et qui crée cette armée qui communique ton amour partout le monde. Merci, Jésus, de nous remplir de toi et de nous saisir de ce mandat, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Et c'est ce que nous avons fait pour la vie de l'homme. Amen. Amen.